Chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur comment diriger dans le contexte chrétien. C'est un cours préparé par le professeur Joël Meller et moi je vais l'enseigner à sa place. Alors, d'abord commençons par parler de la sagesse dans le leadership chrétien. Romains 12, 8 dit, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ce texte biblique nous parle des différents dons, et parmi les dons spirituels, il y a le don de la présidence. Et on dit que celui qui préside, c'est-à-dire celui qui dirige, le fasse avec zèle. Diriger donc avec diligence. Diriger dans le contexte d'une église de maison, c'est diriger avec diligence. Quand on parle de l'église de maison, on parle d'une église qui est au début, d'une église nouvelle, d'une église petite, d'une église où le leadership doit s'exercer avec tact. Mais nous parlons de diligence, nous parlons de dévouement. Le leader qui plante l'église en est d'office le dirigeant. Voyez, quand tu commences une église, c'est Dieu qui t'a confié la direction de cette œuvre. Il est possible que la vision initiale d'une église de maison vienne d'une autre personne que le dirigeant actuel. Cela est possible. Mais attention, ne pas se précipiter pour établir des anciens. Il faut plutôt encourager chaque famille à vivre sous le leadership du père de la famille. J'explique tout ce que je viens de dire ici. D'abord, nous parlons ici des jeunes églises, hein, des églises de maison. Le leadership, souvent, vient de la personne qui a commencé l'œuvre. Si tu n'es pas la personne qui a commencé l'œuvre, Dieu peut toujours te confier la direction de cette église que toi, tu as peut-être hérité d'une autre personne, ou au contraire, pour laquelle Dieu t'a placé, sur laquelle Dieu t'a placé au-dessus. Mais, quelles qu'en soient les conditions, il ne faut pas se précipiter à établir des anciens. Il faut aller doucement. D'abord, il faut enseigner aux membres de l'église, dans ces cas peut-être aux nouveaux convertis, que chacun soit responsable chez lui. Parce que le modèle du leadership de l'église est basé sur le modèle du leadership de la famille. Celui qui ne sait pas diriger sa propre maison ne saura pas diriger la maison de Dieu. Alors, il faut aussi diriger avec diligence dans le contexte d'une organisation para-ecclésiastique, c'est-à-dire une organisation qui est liée à l'église, mais qui n'est pas une église locale. D'abord, il faut encourager toute l'équipe dirigeante à partager la vision du leader. C'est très important. Il faut ici de l'humilité. Il y a la vision que Dieu a donnée au leader. Toi qui es, tu fais partie de l'équipe dirigeante, tu ne dois pas apporter ta propre vision pour changer la vision initiale. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est un péché, parce que tu fais dévier l'œuvre de la mission initiale. Ensuite, toi qui es le leader, tu dois promouvoir des leaders qui aient des dons d'administration et de leadership, ainsi qu'un tempérament qui encourage la paix et l'unité du groupe. Et c'est très important. Il ne faut pas confier des responsabilités à des personnes qui n'ont pas les dons requis. Et dans le contexte d'une église de maison ou d'une administration, d'une organisation para-ecclésiastique, on a besoin des dons d'administration et du leadership. On confie des responsabilités souvent à des personnes qui ne sont pas des leaders et ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils amènent toute l'organisation à l'échec. Ensuite, il faut adopter une position biblique et commune sur le rôle de la femme dans le leadership de l'Église. C'est très important. Les femmes ne sont pas des sous-chrétiennes. Les femmes ne sont pas des personnes de seconde valeur. Non, les femmes sont des servantes de Dieu, comme nous, les hommes, nous sommes serviteurs de Dieu. Certainement, la Bible nous dit qu'elles sont soumises à... Attention, les femmes sont soumises à leur mari à la maison, pas à n'importe quel homme. La soumission de la femme n'est pas universelle vis-à-vis de tous les hommes. Non, la soumission de la femme s'est faite dans deux contextes. La femme est soumise à son père quand elle n'est pas mariée. La femme est soumise à son mari, à elle, et non pas à tous les hommes de l'Église. Bien sûr, tout le monde est soumis, comme l'apôtre Paul l'a dit, on est soumis les uns aux autres. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que les femmes des autres vous soient soumises à vous, monsieur le pasteur, parce que vous êtes le Dieu adjoint. Certainement pas. La femme n'est pas une chrétienne de second rang. La femme est là à servir avec nous dans l'œuvre de Dieu, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de différence de position, parce qu'une telle personne est masculine et l'autre est féminine. C'est très important. Il faut confier aux femmes les responsabilités que Dieu leur a données, toujours dans la soumission à leur mari. Alors, pour ce qui concerne le choix des leaders, il faut faire ce choix dans la prière. Dans la prière, il ne faut pas se précipiter. Dans la prière, il faut rechercher aussi les éléments suivants. D'abord, il faut que la personne que l'on veut promouvoir au poste de leadership puisse avoir une marche personnelle avec Dieu. La marche personnelle avec Dieu signifie qu'il faut que la personne connaisse la Bible, il faut que la personne ait une vie de prière, et surtout, il faut que la personne vive dans l'obéissance. Il faut que la personne craigne Dieu. Il ne faut pas promouvoir des gens qui sont des bandits, qui sont des gens difficiles, qui sont des gens qui vivent ouvertement dans le péché et qui nuisent à l'honneur de Jésus-Christ. Mais aussi, il faut que la personne que l'on veut promouvoir, qu'on veut élever au poste de leadership, soit une personne qui a la passion pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Il ne faut pas des gens qui soient ni chauds ni froids pour l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il faut aussi que la personne partage notre vision. Il ne faut pas s'associer des personnes qui ont des visions différentes. Il faut que la personne partage notre vision, mais encore et surtout, il faut que la personne ait un bon tempérament. Il ne faut pas des personnes qui se fâchent tout le temps, des personnes qui critiquent tout le monde, négatives, non. Il faut des personnes qui soient positives, des personnes qui soient encourageantes, des personnes qui aient la maîtrise d'elles-mêmes, s'il faut parler des personnes. Et puis, il faut qu'il soit des personnes qui aient des dons spirituels et des talents naturels qui vont contribuer au progrès de l'œuvre de Dieu. Alors, comment diriger une nouvelle église ou une église de maison? D'abord, dans le contexte d'une nouvelle église, tu es le premier leader reconnu de la nouvelle église, parce que c'est toi qui as été utilisé par Dieu pour commencer cette église. Tu fais partie du groupe ou tu viens de l'extérieur, mais tu dois toujours garder la même ligne, la même vision, la même vocation. Même si tu fais partie d'un groupe qui n'était pas à l'origine de l'Église, tu dois garder la vision. Un leader peut être appelé ou désigné par les autres. Ce n'est pas toi seul qui peut être à l'origine, mais tu dois, même si tu n'es pas à l'origine, tu dois être désigné par les autres. Tu ne dois pas te confier la responsabilité de leadership de toi-même. Il faut laisser aux autres aussi le temps de nous dire et de confirmer l'appel et la vocation de Dieu pour nous. Hébreux 5, 4 dit « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Le leadership n'est pas quelque chose que nous nous octroyons. C'est Dieu qui nous confie la responsabilité des âmes. Alors, comment choisir les leaders associés? Comme avant, il faut le faire dans la prière, il faut que les associés aussi. Et la crainte de Dieu, marche avec Dieu, la passion du royaume, l'unité de vision, le bon tempérament, et puis les dons spirituels et les talents naturels. Même s'ils sont des associés, ils doivent avoir le même comportement et les mêmes dons spirituels et naturels que toi. Parlons maintenant de l'ordination des leaders dans une nouvelle église. Alors, il ne faut jamais agir dans la précipitation. Il faut laisser passer au moins 2 ans avant que quelqu'un ne soit ordonné. Il faut avant tout développer des leaders en tant qu'associés avant de les ordonner comme anciens ou diacres. Il faut éviter la précipitation, c'est la première chose. Il ne faut pas aller trop vite. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22a, l'apôtre Paul dit « N'impose les mains à personne avec précipitation » et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Parce que si tu ordonnes quelqu'un aujourd'hui et demain, cette personne devient un ennemi de l'Évangile, tu partages cette culpabilité. Alors, parlons maintenant de l'ordination des leaders de l'Église. Alors, l'ordination des leaders dans une église nouvelle ou dans une église établie. Faut-il limiter les mandats des anciens et des diacres ou faut-il les laisser servir à vie? Ça, c'est une décision que chaque église devra prendre. Mais je crois que l'appel de Dieu n'est pas lié au mandat. Quand Dieu t'appelle pour que tu sois ancien ou diacre, tu es ancien et diacre à vie. Bon, maintenant, dans les contextes administratifs, certaines églises laissent les gens servir pendant des années et les font répartir et les font revenir après plusieurs années. Mais cela, c'est une question administrative. Mais dès que quelqu'un est ordonné ancien, il demeure ancien à vie. Cette ordination ne s'enlève pas. Alors, cela est très important. Mais attention, si on est aussi ancien et diacre à vie, il faut faire très attention pour ne pas devenir inefficace. Le fait de travailler sans frein peut pousser certaines personnes à devenir inefficaces avec le temps. Donc, c'est une question ici de sagesse pour savoir comment faire. Il faut toujours apporter des nouveaux anciens et des nouveaux diacres pour qu'ils apportent, comme on dit, un sang nouveau qui aide à aller de l'avant.